Que Dieu soit béni. Ouvrons donc le Saint-Livre, nous allons faire plusieurs lectures parce que le sujet qui nous préoccupe est important. C'est le sujet où Dieu dit, c'est moi qui vous console. Dans Romains au chapitre 15, il nous est rappelé une vérité qui fait partie, on pourrait l'inclure dans la doctrine biblique. Romains chapitre 15, verset 4. C'est le genre de verset qui nous permet de comprendre que ce qui a été écrit, ça a été écrit dans un but bien précis. Romains, chapitre 15, verset 4e. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, si on résume ce verset, tout ce qui a été écrit, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous soyons remplis d'espérance. S'il y a une chose qui se passe lorsque nous recevons la parole de Dieu, eh bien nous recevons la consolation. Et nous avons besoin de consolation. Nous en avons vraiment besoin. D'ailleurs, juste après, dans 2 Corinthiens, on va prendre deux textes dans les Corinthiens. C'est 2 Corinthiens, chapitre 1er. Regardez bien ce qui est écrit. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 2. Je commence par le verset 2 parce que c'est une prière qui revient dans toutes les épîtres, ce qu'on appelle une prière d'accompagnement. C'est la volonté de Dieu, ce n'est pas des formules de politesse de l'apôtre Paul, c'est une prière. C'est une prière qu'on devrait prendre avec beaucoup de cœur et que l'on devrait d'ailleurs s'attribuer les uns aux autres. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est un don, ça n'a rien à voir avec le mérite. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Un peu plus loin d'ailleurs, au chapitre 7, au chapitre 7 et au verset 6, il y a encore un enseignement sur la consolation qui nous prouve que Dieu console, mais que Dieu peut consoler aussi par les chrétiens qui ont reçu, c'est comme nous venons de le lire, bien sûr, la consolation. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 6, « Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. » Ça, c'est formidable quand les chrétiens sont des vases communicants et que parce qu'ils reçoivent la consolation ou un autre bienfait, eh bien, ils l'apportent aux autres. Ça, c'est l'Église. L'Église où les gens veillent sur tous ceux que Dieu veut leur donner. On peut la refuser, la consolation. Regardez avec moi dans le psaume 77. Cette expression, je crois qu'elle vient deux fois dans la Bible. Dans le psaume 77, si je ne me trompe, regardez ce psaume d'Asaph. Il est dans l'épreuve, mais vous savez, l'épreuve, ce n'est pas parce qu'on est dans l'épreuve qu'on n'est pas dans la présence de Dieu. D'ailleurs, soyons très simples, les psaumes, ils sont inspirés, donc les hommes qui les ont écrits, ils étaient où? Dans la présence de Dieu. C'est évident s'ils sont dans la Bible, et pourtant, ils expriment beaucoup de détresse. Donc, soyons simples. On peut être dans la détresse et en même temps dans la présence. Vous en avez la preuve formelle par les psaumes. Donc, au 77, verset 3. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. Il y a des gens, quand ils sont dans la détresse, qu'est-ce qu'ils font? Allez, aidez-moi. Comment? Ils fuient. Lui, dans la détresse, il cherche Dieu. Voilà, c'est ce qui fait que la présence de Dieu est une réalité dans la détresse. Comme il y a des chrétiens dans la détresse qui, bien sûr, abandonnent le Seigneur, qui fuient. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme, regardez bien, comment on peut être dans des combats. Mon âme refuse toute consolation. Vous savez, on choisit. On peut refuser la faveur de Dieu, la bonté de Dieu. Ce soir, vous êtes là, mais vivons-nous cette réunion par la foi. Si nous la vivons juste avec de l'intellect, ou des émotions, ou des sentiments, nous passerons à côté. Le juste, il vivra par sa foi. Pas la foi des autres. Béni soit Dieu pour la foi des autres. Le peu que nous venons de lire est la preuve que nous pouvons nous consoler les uns les autres, recevoir la paix et la procurer aux autres, etc. C'est extraordinaire l'Église. Mais nous pouvons refuser, et le résultat, ben, je me souviens de Dieu, je gémis, je médite, et le résultat, mon esprit est toujours abattu. Nous pourrions prendre d'autres textes, oui, dans Ésaïe. Franchement, c'est un sujet qu'un pasteur pourrait présenter qu'avec des textes bibliques, tellement il y en a sur le sujet. Dans Ésaïe 51, au verset 12. Ésaïe 51, verset 12. C'est important, mes frères et sœurs. C'est Dieu qui parle. C'est pas une dénomination, un mouvement religieux. C'est notre Dieu, le Dieu qui est vivant. C'est moi qui vous console. Alléluia. C'est moi qui vous console. C'est notre Dieu qui parle. Si Dieu m'a inspiré, c'est pour nous. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais constamment devant le jour? La semaine dernière, des astronomes ont découvert 1500 galaxies. Ils ne les trouvaient pas parce qu'elles étaient naines. Elles étaient naines parce qu'il n'y avait que 50 millions ou 200 millions d'étoiles dans chacune, parce qu'elles sont petites. Qui c'est qui a fait ça? C'est notre Dieu. Parce que je pense qu'il est un peu grand. Alors, Dieu dit qu'il console. Alors, ce soir, nous devons être sérieux, pratiques. Est-ce que je suis venu avec la foi? La foi, c'est croire Dieu sur parole. La croyance, je crois en Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on croit Dieu. C'est clair? Est-ce que le diable croit? Oui. Est-ce qu'il croit Dieu? Non. Les démons, est-ce qu'ils croient? Oui, tous. Tous les gens qui sont partis dans l'éternité, qu'ils soient au ciel ou en enfer, tous croient. Mais c'est une chose de croire en Dieu et c'est une chose de croire Dieu sur parole. Lorsque la paix, par exemple, la paix ce qui surpasse l'intelligence, parce que notre cerveau, vous voyez, quand Asaph dit « mon âme refuse toute consolation », David aussi vivra des moments à peu près similaires. On peut avoir des moments où on ne le saisit pas. Il faut que les vertus de Dieu dépassent l'intelligence. La paix qui surpasse l'intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Dieu est le Dieu de la rédemption. On aime chanter des cantiques, notre Rédempteur. On va chanter un cantique, le fait que Dieu est puissant, le fait que je vous ai dit qu'on a découvert des 1500 galaxies, ou je ne sais plus combien, des galaxies, pas des étoiles. Ça nous rappelle que Dieu est tout puissant, qu'il crée, qu'il continue à créer dans les univers, dans l'univers, etc. Pour vous, si vous deviez ce soir mettre un attribut de Dieu, quel mettriez-vous? Peut-être suite à la dernière expérience que vous avez faite, vous aviez perdu la paix. Oh, moi je sais que Dieu est le Dieu de la paix, le prince de la paix. D'accord? Si vous avez expérimenté que la guérison physique, oh, vous pouvez dire, ah mais je sais que Jéhovah, c'est Jéhovah, comment ça s'appelle? Rapha, l'Éternel qui guérit, etc. Dieu est le Dieu admirable, le conseiller. Tiens, j'avais besoin d'un conseil, j'aurais jamais cru qu'il y avait ce conseil dans la Bible, etc. Dieu déclare qu'il est le Dieu de toute consolation. Mes frères et sœurs, Dieu s'appelle le consolateur. D'ailleurs, quand Jésus est parti au ciel, il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Ça prouve bien que Jésus-Christ, en tant que sauveur, était déjà le consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Et il sera en vous, et il sera avec vous. Il vous enseignera, et il vous rappellera. Lorsque, alors la question qu'on peut se poser, c'est vrai que c'est une question qu'on peut poser, je me la suis posée pendant que je préparais cette exhortation. Il ne nous laisse pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alors attention avant de répondre, parce que c'est quand même des questions qui peuvent avoir plusieurs réponses. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, qu'est-ce que je suis ? Est-ce que je suis orphelin ? Vous voyez, c'est une question que l'on peut se poser. Puisqu'il dit « je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai le Saint-Esprit ». Donc un chrétien qui n'est pas véritablement passé par la nouvelle naissance est orphelin. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quelqu'un qui n'a pas de père, quelqu'un qui n'a pas de parents, et quelqu'un qui, bien sûr, est en difficulté. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans la difficulté. Pourquoi tant de chrétiens vivent continuellement ? Je ne dis pas ponctuellement, épisodiquement, parce que ça arrive, parce qu'il y a des combats, parce qu'il y a des luttes, des manquements, des faiblesses et même des péchés. Mais combien de personnes n'arrivent pas à saisir cette consolation ? Il y a des chrétiens, ils sont tout le temps dans la crainte. Vous savez, l'ennemi, il sait les choses. Il connaît la parole de Dieu. Et s'il peut nous empêcher d'être dans le repos, quand même, c'est beau quand des chrétiens, dans une période difficile comme la nôtre, nous pouvons procurer la paix. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et c'est important de pouvoir témoigner. Moi, hier, j'en étais presque fatigué de témoigner. Je me suis assis dans l'avion et un monsieur, on commence à parler, il me dit, qu'est-ce que vous faites ? Dans l'avion, en plus, le mec, il était bloqué. Bloqué pendant une heure vingt. Je suis pasteur. Il m'a dit, ah bon, c'est la première fois que je me passe. Mais ouais. Et on a commencé à parler, il m'a posé des questions pendant 1h20. Et je vous dis ça parce qu'on a eu une discussion qui prouve vraiment qu'on peut être une bénédiction pour les gens. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous vous rendez compte, un jour, si vous êtes chrétien, je ne parle pas à ceux qui ne sont pas baptisés, je parle à ceux qui sont baptisés, qui ont pris un jour l'engagement d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Mais quel dommage d'avoir donné un jour sa vie à Jésus-Christ, vraiment, d'une façon heureuse, d'une façon sérieuse, et de vivre toujours dans la crainte, de vivre toujours dans l'angoisse, et d'être toujours dans la crainte, c'est pas bien. Mais de pire encore, c'est de répandre cette crainte autour des autres. Parce que quand même, qu'on le veuille ou non, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui ou non ? Ça, c'est une loi immanquable. Alors que Dieu nous accorde la grâce ce soir de faire un acte de foi, si nécessaire, ou ce soir, et demain, et peut-être même dans la nuit, Dieu veut que nous reflétions cette grâce, cette paix, cette consolation. Qu'est-ce que c'est pour vous la consolation ? Si vous deviez dire, tiens, voilà, je vais travailler avec le Robert, je vais travailler avec la Rousse, et je vais rajouter ou mettre des synonymes au mot consolation. Quel mot mettriez-vous pour le mot consolation ? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là, lorsqu'il parle de consolation ? Soulagement, oui, dans le Robert, il fait partie des synonymes. Le soulagement, je suis soulagé, je les ai marqués. Apaisement, c'est un mot qui fait partie. Voilà. Apaisement, c'est la paix intérieure. Quand quelqu'un est apaisé, c'est qu'il reçoit une paix intérieure. Alors, je vous les livre. Le repos, la satisfaction, la restauration, le réconfort, le baume et l'allègement. Quand Dieu parle de consolation, Dieu ne nous parle pas de théologie compliquée. Vous savez, des fois, on a vite fait d'amener la doctrine à de la théologie intellectuelle, systématique. Beaucoup de chrétiens sont là-dedans. C'est la théologie, c'est la doctrine, vous savez, pour des cerveaux à 3 ou 4 étages. Quand les gens parlent de consolation, oui, la consolation éternelle dans le ciel, c'est un peu virtuel, c'est insaisissable. Quand Dieu parle de consolation, il parle de vérité. C'est la réalité. Je te consolerai. Regardez un enfant. Un enfant qui tombe. Qu'est-ce qu'il fait un enfant qui tombe? Un petit enfant, il a 2 ans et demi, 3 ans. Qu'est-ce qu'il fait un enfant? Alors, on va lire un texte puisqu'on est dans Ésaïe et je vous donnerai un petit témoignage. Ésaïe 66. Regardez ce texte. C'est concret, mes frères et sœurs. La consolation, c'est pas de la théologie. Bien sûr qu'on peut l'inclure dans la doctrine biblique. En plus, Dieu s'appelle le consolateur, dans les attributs de Dieu, clac. On introduit le Seigneur s'appelle le consolateur. Mais franchement, si c'est que de la doctrine et de la théologie, c'est bien tristounette, moi je vous le dis. Ésaïe 66, on va prendre le verset 12. Regardez bien, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce verset, mais quand même, ça vaut la peine de méditer ces versets, de même de les apprendre. Ésaïe 66, verset 12, « Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras, caressés sur les genoux, comme un homme, là on n'est même pas un enfant, comme un homme que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. » Quand je lis ce texte, je pense à un de mes fils. Quand il était petit, dès qu'il se faisait un petit problème, un petit accro qui trébuchait, il était là. Moi, je lui disais que tu veux quelque chose. Je veux ma maman. Et, tu te rappelles, chérie, il était tout le temps, il était pas plus haut que 3 pommes. Je veux ma maman. Et il s'endormait, clac, même dans l'église, il s'endormait. Et c'est beau un enfant qui de suite a le réflexe de chercher la consolation. Un enfant le fait. Oui ou non? Et ce texte nous montre bien comme un homme, même les autres. Alors ce texte, il va beaucoup plus loin, parce qu'on est tous des enfants. Et même si on est grand, on est des grands messieurs majeurs, nous avons besoin de tendresse et de consolation aussi, quel que soit notre âge. Oui ou non? Ou est-ce qu'à partir de 18 ans, on n'a plus besoin de consolation? Mes frères et sœurs, je vous consolerai. Je te consolerai. Ce n'est pas de la théologie. C'est quelque chose qu'il faut absolument saisir. Ce n'est pas de l'espérance future. Bien sûr qu'il y a une consolation éternelle. Mais mes frères et sœurs, la consolation, c'est pour maintenant. Je te consolerai. J'aurai le regard sur toi. Il faut pouvoir dire, c'est « je veux mon Seigneur ». Je veux me retrouver dans les bras de mon Seigneur. Comme on vient de le lire. Voilà. Le mot consolation nous parle d'apaisement. On a besoin de paix. On a besoin. Pourquoi on n'a pas saisi cette consolation? Pourquoi il y a des chrétiens qui sont tout le temps, par exemple, dans le deuil? Moi, j'ai connu une dame, elle avait perdu son mari depuis combien? 10 ans, 15 ans? Oui, 15 ans. Elle était dans le deuil tout le temps. Est-ce que c'est normal le deuil? Bien sûr que c'est normal. On a besoin, on le voit, c'est biblique, du temps pour faire le deuil. Mais je crois quand même que Dieu est un Dieu qui console et qui change le deuil en allégresse. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne de l'espérance. On l'a lu dans le verset d'introduction. Dieu a voulu les Saintes Écritures dans ce but. C'est dans ce but que nous avons la Sainte Bible, pour comprendre la croix, bien sûr, mais également pour que nous possédions l'espérance par une véritable consolation. Quelqu'un qui n'est jamais consolé, il va être en difficulté avec cette vertu de l'espérance. Il ne pourra pas avoir de l'espérance. Et nous ne nous arrêtons pas sur ces textes, comme on vient de le dire dans Ésaïe, comme un enfant caressé sur les genoux de sa mère. Qui croit au fait que Dieu peut faire plus qu'une mère? Parce que bon, il n'allait jamais vers moi. Il allait vers sa mère. Est-ce qu'une maman peut consoler mieux qu'un papa? Je pense, oui. Franchement, je l'ai vécu, je pense qu'une maman peut consoler plus qu'un papa. Franchement, c'est vrai. Mais qui pense que Dieu peut consoler plus qu'une mère? Bon, j'espère. Qui c'est qui a créé les femmes? C'est quand même Dieu. Donc, Dieu sait très bien comment consoler quelqu'un. Mais vous savez, ce que je vous dis, ça paraît très basique. Mais si vraiment on y réfléchissait, je pense qu'on sortirait souvent de nos moments de difficulté plutôt que de devoir dire comme Asaph, mon âme refuse toute consolation. Je vous assure, Je le sais, de la même manière qu'un pécheur peut refuser la croix et donc refuser le salut, un chrétien peut refuser la consolation, parce qu'il boude, parce qu'il râle, il peut même râler contre Dieu. Est-ce qu'on peut râler contre Dieu ? Ben oui, c'est pas le moment d'en parler. Comme un homme que sa mère console, je vous consolerai. Ésaïe 51, verset 12, on l'a lu, c'est moi qui vous console. Donc dans la présence de Dieu, vous pouvez obtenir cette consolation. On a besoin de consolation. Dans Ésaïe, puisqu'on y est toujours, dans Ésaïe 61, 1 et 2, texte qu'on cite souvent dans l'évangélisation, et on a raison, mais je crois qu'on peut aussi le citer dans l'édification, Jésus est venu, verset chapitre 61, verset 1er, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Pourquoi ? Pour nous faire la morale ? Non. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui le méritent. Il n'y a pas écrit tous ceux qui le méritent ? Ah pardon, pour consoler tous ceux qui ont fait des progrès, non. Pour consoler tous les affligés. Mes frères et sœurs, vous allez me dire, mais bon, on fait un peu d'humour dans la prédication, mais ce n'est pas de l'humour. Combien de fois, sincèrement, nous avons pensé que quand même, il fallait un peu mériter telle grâce ? Oui ou non ? Est-ce que la religion du mérite, elle n'existe que dans certaines dénominations ? Est-ce qu'elle n'est pas un peu des fois incrustée dans notre cœur ? Il faut que je mérite. Là, je ne mérite pas. Je me suis loupé. Donc, je ne mérite pas la consolation du Seigneur. Mes frères et sœurs, il n'est pas dit « Heureux les affligés qui le méritent ». Comment c'est écrit ? On va le lire. C'est dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia. Il n'est pas dit heureux ceux qui ont fait des progrès. Heureux les affligés qui font des progrès. Mais mes frères et sœurs, c'est important parce que la religion du mérite, et c'est ancré, c'est de la nuit des temps. Vous rappelez les pharisiens qui parlaient du centenier ? Vous rappelez ? Mais c'est la religion du mérite, elle n'est pas biblique, elle est diabolique. Il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite, tu parles, il a construit la synagogue. Donc il mérite que tu le bénisses quand même, il nous a vraiment rendu service. Et lui, il dit non, lui, il n'est pas encore converti. Il n'est pas encore converti, le centenier. Et il est dans l'humilité, parce que l'humilité favorise ces choses. Et la religion défavorise ces choses. Est-ce que vous comprenez ? Ceux qui sont dans la religion disent « ils méritent ». Et le gars qui n'est pas encore converti, il dit « non, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ». L'humilité favorise la compréhension de ces choses. C'est pour ça que Dieu dit qu'il fait grâce aux humbles. Mais les affligés, c'est ceux qui vont pas bien. Oui, je ne vais pas bien. Mais quand on commence à penser qu'il faut le mériter, ah non, j'ai été trop mauvais cette semaine. Non, je ne mérite pas la consolation. Il console tous les affligés. Ce soir, vous pouvez obtenir la consolation du Seigneur. Qui la veut, la consolation ? Qui vraiment dit, j'ai besoin ? Oui, comme une mère console son petit, là, qui dit, je veux ma maman. Je veux, Seigneur, ta consolation. Parce que quand même, merci pour nos mamans qui nous ont consolés, ou les amis qui nous ont consolés. Mais je crois ça même, Seigneur, que tu peux faire plus que le plus grand des consolateurs sur la terre. Vous rappelez ce que Job il a dit à ses amis ? Vous êtes des consolateurs de néant. Et pourtant, ils utilisaient la parole. Vous savez, la parole, on peut en faire du mal. Ils ont utilisé que la parole. Et tout ce qu'ils ont dit, c'était de la culpabilité, de la fausse culpabilité. Mes frères et sœurs, Dieu donne la consolation. Il l'a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Il vous enseignera et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et ce soir, le Seigneur, par cette exhortation, vous dit, Je vous donne ma paix. Je vous donne ma consolation. Comment pouvons-nous être troublés? Comment pouvons-nous être troublés avec le Dieu que nous avons? Comment pouvons-nous être inquiets? Il le dit, mais regardez les oiseaux du ciel. Regardez-les, je prends soin d'eux. Regardez les lys des champs, je prends soin d'eux. Il l'a dit ou l'a pas dit? Est-ce que vous valez plus que des lys? Est-ce que vous valez plus que des moineaux? Bien sûr. Alors, ne vous inquiétez pas, je prendrai soin de vous. Je vous donnerai une huile de joie, un vêtement de louange. Moi, j'aime ces textes quand il est dit. Alors, il faut comprendre, parce que bon, si vous avez une tache ou si j'ai une tache sur le vêtement. Bon, parlons de choses simples. Vous voyez quelqu'un qui a une tache sur sa jolie robe. D'accord? Ça vous est déjà arrivé de voir. Alors, qu'est-ce que vous faites? On le lui dit ou on ne lui dit pas? Ça dépend de la personne. Comment vous le prenez? Si oh, tu as une grosse tache là, d'huile sur le col. Quand on dit quelque chose à quelqu'un, c'est pourquoi qu'on le lui dit? Pour le critiquer? Tiens, tu as une tache? Ou c'est pour qu'il enlève? Non mais, vous me suivez? Quand le Seigneur nous montre quelque chose, pourquoi il nous le montre? Alors, c'est bien expliqué, regardez dans Ésaïe 57. C'est important pour au niveau de la culpabilité. Vous savez, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, il n'y a rien de plus pratique. Regardez ce texte. On voit bien que Dieu nous montre la tâche, Dieu nous montre ce qui ne va pas. Il nous le montre, parce qu'il ne peut pas ne pas nous le montrer. Et en même temps, il nous aide. Regardez, c'est très bien expliqué au chapitre 57, au verset 17 et 18. Là, vous avez un bel exemple de la pédagogie du Seigneur qui montre les choses pour nous aider. Alors, regardez, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité. Bon, il montre ce qui ne va pas et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Il montre la tâche. Et au verset 18, regardez, j'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Mais voyez, c'est important de comprendre les choses par la patience que donnent les Écritures et la consolation que donnent les Écritures. Tu me montres la tâche. Je suis toujours troublé, c'est une tâche. Il faut absolument que je ne vive plus dans la crainte. Il faut absolument que je ne vive plus dans l'angoisse, dans la peur du lendemain. Je veux être une source de bénédiction, déjà pour moi-même, pour te glorifier, d'abord pour glorifier Dieu, et pour être une bénédiction pour les autres, comme on l'a lu par la consolation. Et Dieu nous afflige, Dieu peut même nous affliger pour qu'on reçoive sa consolation, pour qu'on puisse consoler les autres, parce que ça fait partie du programme. Dans la vie, il y a des deuils, il y a des épreuves, il y a tout dans la vie, il y a un temps pour tout. Et bien par rapport à tous ces temps, je vais être capable que le Seigneur me montre s'il y a une crainte, s'il y a des angoisses, s'il y a des troubles. Ça peut arriver. Mais comme je l'ai dit souvent, c'est une chose d'être inquiet 5 minutes, ça n'est une autre d'être inquiet 30 ans. Et là, je crois qu'il faudrait qu'on puisse dire, voilà, tu me montres les choses. Oui, Dieu peut s'irriter, Dieu peut dire, mais quand même, ça, comme on l'a lu tout à l'heure, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Mes frères et sœurs, avec Dieu, nous n'avons aucun problème. Nous, on est maladroits. Ça dépend. Dire à quelqu'un qu'il a une tâche, il peut mal le prendre. Mais quand c'est le Seigneur qui nous montre que cette crainte qui s'est installée depuis des années, il faudrait quand même l'enlever, cette tâche. Je te guérirai. Je te consolerai. Oui, mais tu sais, ça fait longtemps que ça va pas. Ésaïe 51, regardez. Moi, c'est un de mes versets préférés. Je vous le dis franchement. Franchement, c'est un de mes versets préférés. Ça vous aide dans le ministère, je peux vous le dire. Ésaïe 51, verset 3. C'était compliqué, mais regardez. Regardez cette bonté. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Et la suite, c'est, je l'ai entouré en rouge. Il a pitié de toutes ces ruines. Ça vous rassure pas, ça? Il a pitié de toutes ces ruines. Il a pitié de toutes nos ruines. Ésaïe 61, vous voyez? C'est important, mes frères et sœurs. Vraiment, c'est important. Et qu'est-ce que Dieu fait avec les ruines? Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec les ruines?
On les abandonne souvent.
Et regarde, et qu'est-ce que Dieu dit? Verset 4 du chapitre 61, ils rebâtiront sur... Regardez bien les mots quand même. Vous savez, c'est important parce que on a des moments compliqués. Sur d'anciennes ruines. Ça nous parle des fils prodigues. J'aime pas trop le mot rétrograde, c'est un peu... C'est pas trop. Il est plus ou moins dans la Bible, mais ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Vous croyez que s'il y a la grâce de Dieu, s'il y a la paix de Dieu dans une église quelconque, le Saint-Esprit peut conduire 10 anciennes ruines, 10 fils prodigues, et que Dieu va construire sur les anciennes ruines? Eh bien oui. Mais écoutez, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres. Ça veut dire que ça fait une belle lurette, qu'il y a un problème. C'est ça que ça veut dire. Ça fait belle lurette, ça fait des années que la maison, elle est endommagée. Eh bien, le Seigneur, il les restaure. Pourquoi? Parce qu'il est tout puissant. C'est moi qui vous console. Dieu dit pas, Dieu oublie ceux qui sont abattus. Dieu abandonne les faibles, c'est pas écrit. Dieu bénit ceux qui marchent bien avec lui. Non, il console tous les affligés. Alléluia. On ne se sent pas jugé quand on lit ce genre de texte. Vous croyez pas, mes frères et sœurs? Et nous devons nous en emparer. Il faut, comment faire? Par la foi. Il n'y a qu'une solution. C'est par la foi. Lisez Hébreux 11, je ne sais pas combien de fois, je crois 21 fois. Ça, c'est de tête que je vous le dis. 21 fois, je crois qu'il est écrit par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Tout a été fait par la foi. Et la foi, c'est la foi en Dieu. C'est peut-être... Nous qu'on exerce la foi, mais c'est Dieu qui le fait. Les murailles de Jéricho, elles sont tombées comment? Elles sont tombées par la puissance de Dieu ou elles sont tombées par la foi? Comment c'est écrit? C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. C'est par la foi des hommes, mais c'est Dieu qui l'a fait. Et tout est comme ça, par la foi, pour que les Écritures nous consolent. Parce que quand même, bon, je vous ai lu 7 ou 8 versets. Bon, ça suffit. C'est pas la peine d'en lire d'autres, même s'il y en a beaucoup. Bon, pour que ces versets soient vécus, il faut les croire. Il faut les croire vraiment. Si vous pouvez les croire intellectuellement, dire c'est vrai, de toute façon tout ce qu'il a dit c'est biblique, mais ça ne va pas vous amener bien loin. Mais si vous dites, Seigneur, tu es le consolateur, comme tu es le rédempteur, ton sang me lave, ça, vous savez, le salut, on fait attention. Mais tout ce qu'on a à vivre sur la terre, hein, mes frères et sœurs, pourquoi ces paroles ne suffiraient-elles pas à nous consoler? Alors, je termine ma prédication. Pourquoi les paroles qu'on vient de lire, le peu d'exemples que je viens de vous citer, même cet exemple sur le fait que Dieu montre une tâche pour l'enlever, pourquoi ces paroles ne suffiraient-elles pas à nous consoler? Mais parce qu'on ne les croit pas. Pourquoi je reste inquiet? Mais parce que je ne crois pas que Dieu s'occupe de tous mes fardeaux. Oui ou non? C'est compliqué. Pourquoi je ne le crois pas? Eh bien parce que c'est un choix. C'est un choix que je fais. Le gars dans l'avion hier avec qui il me parlait, il me dit, moi je suis athée. Je dis, mais oui, vous êtes un athée. Vous avez choisi d'être athée. Vous avez choisi de ne pas croire en Dieu. Comme moi j'ai choisi de croire en Dieu. Et on a eu une discussion super intéressante. Mais on ne fait que des choix. C'est quoi un incrédule? C'est quoi un incrédule? C'est quelqu'un qui choisit de ne pas croire. Il croit en Dieu. Est-ce qu'il y a des chrétiens incrédules? Eh bien ouais. Il croit en Dieu, mais il ne le croit pas. Si le Seigneur vous dit, je te console, c'est moi qui vous console. Je te consolerai. Et je consolerai tous les affligés, pas s'ils sont sympas, ou s'ils ont fait des progrès, ou s'ils sont bien disposés, ou s'ils donnent leur dîme, etc. Ou s'ils viennent tous les dîmes. Oui, bien sûr que ça démontre une soif, un zèle, un service, etc. Il y a quand même un élan de zèle qui est présenté dans la Bible. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur, il nous aime inconditionnellement. Après, il y a des récompenses, il y a tout un travail, et tout un plaisir, on le voit dans le service, etc., dont on peut se priver. Mais mes frères et sœurs, il est écrit que Dieu console tous les affligés. Que son nom soit béni. Tous les affligés. Je ne sais pas si vous êtes comme Rachel. Rachel refusait la consolation. C'est écrit, Rachel refuse la consolation. Asaph a refusé la consolation dans un moment de, ben, vous savez, on n'est pas bien. Ça, on le comprend, c'est facile à comprendre. Parce qu'il y a des moments, quelqu'un a voulu nous faire du bien. Oh, toi, tu comprends pas, tu peux pas rien comprendre. De toute façon, tu peux pas savoir ce que je traverse. Vous avez jamais connu ce genre de gens comme ça. Mais si tu étais à ma place. Ben ouais, mais fait, quand on vient vous aider, peut-être qu'il faudrait me dire merci. Que d'envoyer balader les gens en disant, oui, si tu étais à ma place, si tu savais ce que j'ai traversé. Qu'est-ce que tu as fait? On m'a arraché une dent. Ah bon? Ah moi, je termine avec une sœur, je me rappelle, qui a abandonné Dieu. Un soir, elle vient me voir, elle tape à mon bureau. Elle me dit, monsieur Gros, il faut que je vous parle. Mais c'est important, je finissais de préparer la réunion. Oui, oui, c'est important. Mais je vous le dis pour vous montrer. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Mon mari, monsieur Gros. C'était le jour de la Saint-Valentin. Mon mari, il ne m'a pas offert des fleurs pour la Saint-Valentin. C'est aujourd'hui? Ah d'accord. Je dis, mais moi non plus, c'est pour faire des fleurs à ma femme. Ah bon, on m'a regardé, de leur dire, vous avez vraiment reçu un ministère? Je vous assure que c'est vrai. J'ai dit, mais ma soeur, c'est pas parce que non, on ne m'offre pas des fleurs à sa femme, qu'il ne l'aime pas. Ah si, moi je remets tout en question. Mais ma soeur ne vous... Et elle s'est disputée avec son mari, ils ont fini par divorcer. Bien sûr, c'est pas parti de là. Mais mes frères et sœurs, quand on en arrive là, vous avouerez que quand même, c'est un peu... Je donne un exemple, il est ce qu'il est. Mais mes frères et sœurs, soyons intelligents. Si notre mari ne peut pas nous donner tout ce qu'il pourrait, de toute façon, il y a des choses que votre mari ne peut pas vous donner. Il y a des choses que votre femme ne peut pas vous donner. Et ne demandez pas à votre mari ou à vos enfants ou à votre conjoint des choses que seul Dieu peut vous donner. Par contre, Dieu donne. Et vous pourrez prendre une concordance et voir toutes les fois où il est écrit « Dieu donne », ça vaut quand même la peine de s'y arrêter. Toutes les fois où il est dit par la consolation que donnent les Écritures. Et si vous lisez la Bible avec les yeux du cœur, si vous écoutez avec les oreilles du cœur, laissez-moi vous dire que vous expérimenterez, nous expérimenterons que le Seigneur du ciel et de la terre, ce n'est pas celui qui est tout puissant et qui continue à créer des galaxies dans notre univers, c'est celui qui console tous les affligés. Alléluia. Tous. Et je voudrais ce soir qu'on puisse terminer cette réunion en faisant un acte de foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un acte de foi? Seigneur, j'ai besoin d'un attouchement. J'ai besoin d'une victoire. Oui, ma foi, elle va être vivante dans ce Dieu vivant. On ferme les yeux. On ferme les yeux. On est devant le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais j'ai besoin. Moi ce n'est pas de consolation. Moi, j'ai besoin de délivrance. Je suis lié par un péché. Seigneur, délivre-moi. Oui, tu es le Dieu de la délivrance. Est-ce qu'on pourrait se recueillir vraiment? On a prié tout à l'heure pour deux ou trois personnes qui ont besoin. Mais il y a peut-être quelqu'un qui dit, mais moi j'ai besoin d'une délivrance. Eh bien, avancez-vous. Avance-toi, mon frère. Oui, une maman peut consoler son fiston. Alléluia. Un papa peut consoler sa femme, etc. Mais s'il y a quelqu'un qui dit, mais j'ai besoin d'un attouchement. De ce Dieu qui s'appelle le Consolateur. Oui, il me montre les tâches. Oui, il me les montre. Mais il me les montre pas pour me salir. Il me les montre pour me guérir. Si tu veux donner ton corps au Seigneur, bien. Mais quel bonheur de pouvoir terminer en expérimentant la vie, la faveur, la bénédiction. Prions, mes frères et sœurs, prions.